Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Et aujourd'hui, je suis avec Viviane Lipskier, vous la connaissez sans doute, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Viviane, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît ?
Bien sûr, c'est vrai qu'on a nos auditeurs fidèles, mais on en a toujours qui arrivent en cours de route et c'est avec plaisir qu'on les accueille. Alors écoute, moi je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle DNVB, les surdoués du commerce digital, et j'ai fondé un cabinet qui s'appelle Brand Alchimie pour accompagner les entreprises, les startups et les entreprises traditionnelles à se repenser dans un modèle direct to consumer. Donc ça fait déjà... Je crois que ça fait presque 2 ans hein, qu'on se parle tous les mois ou un peu plus.
Déjà. Exactement, je me rappelle, on s'est rencontrés, c'était à peu près à cette période, il y a 2 ans en arrière, et je t'avais interviewé dans un épisode long, fleuve, et puis depuis, on a eu un gros crush et ouais, on se suit et tu interviens pratiquement tous les mois.
Et tu sais quoi, et je suis super heureuse aujourd'hui parce que, en fait, pour que nos auditeurs comprennent le contexte, on est le dernier dimanche d'enfermement. C'est trop bien.
Ouais, de confinement.
Ouais, de confinement. Et j'adore. Je crois que tu m'avais appelé le premier jour de confinement ou le deuxième jour pour me demander comment on vivait ça, comment le DNVB vivait ça. Donc, je suis tellement contente aujourd'hui de se dire que ça y est, c'est derrière. Enfin, en tout cas, le plus gros, j'espère.
En tout cas, le premier confinement est pratiquement derrière nous. Il y en aurait peut-être un deuxième et un 18e bientôt. Mais voilà, en tout cas, je voulais faire ce point avec toi parce qu'en 2 mois, il s'est quand même passé pas mal de choses. Les marques traditionnelles et les DNVB ont forcément réagi à ce qui s'est passé, à ce confinement. Et ça a chamboulé pas mal de choses et c'était de ce sujet dont je voulais parler. Donc moi, je te propose que tu introduises le sujet du jour et puis on va démarrer notre discussion.
Mais clairement, mais t'as absolument raison quand tu dis qu'en 2 mois, il s'est passé plein de choses et c'est absolument dingue. Donc il s'est passé plein de choses, on ne va pas revenir sur tout, mais on va se focaliser sur les entreprises de la mode, de la cosmétique, enfin le sujet dont on parle habituellement tous les deux. Et pour ces entreprises-là, quand tu dis 2 mois, il y a un chef d'entreprise qui a dit de la mode, qui a dit il y a pas longtemps, en 2 mois, on s'est plus digitalisé que les 2 dernières années. Donc ça, c'est pour ça qu'en fait, j'avais envie aujourd'hui de parler de ce modèle direct to consumer et de dire que, de mon point de vue, on est rentré vraiment dans une nouvelle ère direct to consumer. Parce que en fait, ce modèle, il était déjà très bien compris par la plupart des grands acteurs qui s'y sont intéressés, pas simplement par la mode et pas simplement par les DNVB, mais aussi parce que personne ne peut ignorer, par exemple, un modèle comme Netflix. Bon, d'ailleurs, on a vu ces derniers temps à quel point c'était performant. Il y a plein de modèles, en fait. Alors, peut-être qu'il faut que je redise ce que c'est qu'un modèle direct to consumer par rapport à ce que c'est que le DNVB.
Ouais, parce que c'est...
Donc, le modèle direct to consumer, à la base, ça pourrait être le modèle d'Apple, par exemple. Tu vois, Apple qui a ses boutiques, ses Apple Store, qui vend sur son site, sa marque Apple, peut vendre aussi ailleurs, mais essentiellement vend directement à ses clients sans intermédiaire. Ça, c'est pour, on va dire, son core business, le cœur de business. Mais ça, c'est pas vraiment, c'est un modèle direct to consumer, mais ce dont on parle, nous, c'est un modèle direct to consumer digital. Donc, dans le modèle to consumer digital, évidemment, là, c'est là qu'on fait rentrer un Netflix. Et pourquoi on fait une différence? Ben, parce que, évidemment, quand on dit digital, on dit connaître très, très bien les gens à qui on s'adresse, pouvoir collecter de la data. Et dans ce modèle-là, on peut avoir aussi des modèles qui sont un petit peu différents, comme celui de Birchbox, par exemple. Et le modèle de Birchbox, c'est un modèle de curation, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme, donc le modèle direct consumer, c'est souvent une plateforme en ligne, et Birchbox propose des produits qu'elle ne fabrique pas. Tous les mois, on s'abonne à une boîte, et dans cette boîte, on va recevoir des mini-formats de marques existantes que les équipes de Birchbox auront choisies exprès pour leurs clients, et toutes les boîtes ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça, c'est un modèle par curation. Et tous ces modèles-là, évidemment, avant la période de Covid, avaient déjà le vent en poupe, et les acteurs traditionnels essayaient de comprendre. Et les DNVB, ce qui est différent, c'est que elles, non seulement c'est un modèle direct tout consumer, qui est né en ligne, disons complètement digital, mais aussi verticalisé complètement, c'est-à-dire que les digital natives vertical brand, à la différence d'un Birchbox, font leurs produits. Elles ne vendent pas les produits des autres. Mmh. Voilà. Donc, je crois que là-dessus, après avoir dit ça, on pourrait se demander pourquoi les acteurs traditionnels s'y intéressaient auparavant. Ben, justement parce que ça permet d'accéder à la data. Dans une distribution traditionnelle, dites-vous que les acteurs, les fabricants n'ont pas accès du tout à leurs clients. Ils fabriquent des produits qu'ils vont donner à distribuer par d'autres. Et du coup, l'accès, non, imagine que tu fasses des produits, puis tu peux les vendre via Amazon, par exemple, ou tu peux les vendre toi-même pour des marketplaces. Et auquel cas, tu n'as pas de retour du tout de tes clients, donc tu ne peux pas personnaliser l'expérience client, tu ne peux pas fidéliser, et puis tu ne peux pas vraiment améliorer tes produits, puisque tu n'as pas vraiment de retour. En fait, pouvoir accéder à ses clients, c'est aussi accéder à un certain nombre de données qu'on appelle les données psychographiques et les données démographiques, très fines. Hein, c'est pas des panels.
C'est quoi la différence psychographique, démographique ? Psychographique, ça veut dire quoi ?
Psychographique, c'est tout ce qui est les sciences sociales. Donc, c'est tout ce qui est les habitudes de consommation, les croyances, etc., les freins. Donc on va s'intéresser à vraiment ce qui est constitutif de la personnalité des gens, leurs habitudes de vie. On peut regrouper les gens par habitudes de vie. Les données démographiques, c'est les données qu'on connaît un petit peu plus, donc l'âge,
la région,
les CSP, les régions, etc. Et donc ça permet d'adapter en fait son discours aux différentes cibles. Et plus tu as de données en fait, et plus tu vas pouvoir faire un travail fin. Et ce travail fin, bien sûr, pourra s'adapter ensuite à l'acquisition de clients. Et on sait que si on veut faire un travail, par exemple, si on veut avoir des très bons retours sur investissement sur Facebook, quand je dis Facebook, c'est Instagram aussi, il faut connaître très bien sa cible, très très bien, très très finement, parce qu'on l'a déjà dit ensemble, Facebook permet d'aller chercher vraiment des points de détail, voire de faire de la géolocalisation, etc. Donc plus on a d'informations, et plus mieux on vise juste, donc moins on perd d'argent dans les trous de la passoire. Après, pourquoi il fallait aussi être direct to consumer déjà, justement pour inverser le rapport de force avec tes distributeurs et ajouter de la valeur quand tu deviens. En fait, le fait d'être direct to consumer te rend aussi customer centric, c'est-à-dire que tu peux mettre tes clients au centre de l'histoire. Et donc, c'est même plus qu'une histoire de marge, de répartition de marge, etc., de distribution. C'était devenu vraiment une nécessité déjà avant, c'est-à-dire de maîtriser cette relation client et que le client soit vraiment au centre de la marque. Donc, moi, ce que j'ai vu là, c'est que, en fait, toutes les marques qui avaient bien observé et qui étaient donc prêtes à se positionner, il y en a certaines qui ont vraiment très bien réussi et qui ont plus que sauver les meubles. Si je regarde parmi les marques de mon entourage que j'accompagne, etc., je prends Nature et Découverte, par exemple, tu vois, contre toute attente, ils ont fait sur leur site internet une très grosse performance sur les jouets, sur l'offre éducative Montessori et sur le yoga. Ou si tu prends le groupe Yves Rocher qui a fermé tous ses magasins, donc tu aurais pu te dire, oula, ça va faire très très mal. Ils ont racheté, entre autres, je ne rentre pas dans les détails, etc., mais ils ont racheté une marque aux États-Unis en 2018 qui s'appelle Arbonne, une marque de cosmétiques, qui est sur, je ne sais pas si ça t'est familier, ça l'est moins en mode le modèle du social selling. que non, ça te parle. C'est le modèle Tupperware, en fait. Tu sais, où tu peux devenir
représentatif
de la marque, enfin, vendeur de la marque, et tu touches une commission sur les ventes. C'est le modèle de Avon ou Unique aussi. Et donc, tu vois, avec cette marque Arbonne, ils ont réagi super vite. En fait, ils ont créé un stock central, parce que normalement, chacune donne. Le principe, c'est que chaque vendeuse donne les produits aux clientes auxquelles elle parle, tu vois. Ben là, en fait, ils ont réagi super vite, et puis ils ont créé un stock central pour envoyer chez les clientes directement. Donc, si tu veux, j'ai vu ces modèles-là, et puis j'ai vu d'autres entreprises de biens de consommation, mais que j'ai trouvé ahurissantes dans leur pivot rapide, super habile. Et j'ai écouté l'excellent podcast que tu as fait avec Maison Plisson, par exemple. C'est fou quand même.
C'est hallucinant.
Ah oui, c'est fou. C'est fou. Et tu te dis que en combien de temps? Une semaine?
Ouais, en une semaine. Mais moi, je trouve que ce qui s'est passé dans la food, c'était hyper intéressant. Mais parce que c'est quand même un métier, la food. Alors, Maison Plisson, Delphine, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt vive. Hein. Oui. Elle est quand même très dynamique, etc. Mais je trouve que c'est un métier, l'industrie de la food, qui est un peu old school. Et tu as vu des chefs du jour au lendemain qui se sont mis à faire de la vente à emporter. D'accord. Alors qu'ils n'avaient jamais fait ça de leur vie. Et ça a cartonné. Et je trouve que... le fait d'être dos au mur, les mecs, ils se sont posés les bonnes questions, ils ont réagi et ils ont complètement changé de paradigme.
Il y a plein de choses à apprendre d'eux. C'est vraiment, tu m'enlèves les mots de la bouche. Moi, j'ai regardé, d'ailleurs, j'ai suivi le podcast très très sympathique de Business of Bouffe, qui est.
J'ai vu passer aussi,
c'est
vraiment hyper
très
cool.
Sympa. J'ai écouté en particulier celui avec le chef Massimo Bottura. Qui est un chef 3 étoiles au Michelin, et son restaurant est d'ailleurs considéré comme le meilleur resto au monde. Et c'est lui qui est derrière l'organisation de Food for Soul, le réfectoire à Paris, tu sais, qui est dans la crypte de la Madeleine, où il offre repas aux sans-abri, aux réfugiés.
Je vois très bien.
Bah, écoute, lui, tu vois, par exemple, ce chef, Massimo Bottura, non seulement il a trouvé les moyens de faire travailler ses équipes à distance, ses chefs, parce qu'il a plusieurs restaurants de toute façon, il leur a fait travailler en créativité autour des menus pour l'après. Et puis lui, il a travaillé son modèle. Donc tu sais, c'est sa table, je crois que tu réserves 2 ans ou 3 ans à l'avance. Mais en fait, il a repensé complètement son modèle à abonnement. Il a aussi créé des repas assemblés soi-même dans des paniers, etc. Donc moi aussi j'ai trouvé, franchement la food m'a épatée, donc salut, un grand respect. J'ai vu Frishti aussi, t'as vu Frishti comment ils ont pivoté pour faire un supermarché digital, et aujourd'hui je crois que c'est 60%
non, j'ai pas vu ça.
Tu sais, Frishti c'était essentiellement de repas qui livraient,
de livraison à domicile.
En B2B en fait, pour les restaurants d'entreprise et autres. Bon, donc c'était possible, et Poiscaille qui avait arrêté... le fondateur, il était parti au bout du monde se détendre et il ne savait même pas s'il allait rentrer ou pas. Ils avaient complètement arrêté l'activité, et une semaine après qu'ils soient rentrés, en fait, ils ont relancé leur croissance en soutenant l'activité de pêche durable. Donc, je crois vraiment qu'il y a des modèles à prendre, comme tu le disais, dans la food et dans la manière dont ils ont réussi à se repenser, à pivoter, etc. Alors, évidemment, c'est sûr que le commerce électronique, ça va pas compenser les baisses de ventes dramatiques dans les magasins et dans les restaurants, même si c'était une bouée de sauvetage pour pas mal de marques. Mais au moins, en fait, je pense que plus personne contestera le besoin d'être en digital. Tu sais qu'on avait encore beaucoup de mal à convaincre certains acteurs qu'il fallait s'y mettre, qu'il fallait avoir des modèles qui, quand on dit omnicanal, ça ne voulait pas dire 90% ou 95% en boutique. Et le reste à peu près en digital, il fallait vraiment s'y mettre. Et d'ailleurs, on voit quand on regarde ce qui se passe dans les pays qui ont repris, que en fait, ce qu'on peut constater, c'est que tout au début, par exemple en Chine, les consommateurs chinois, ils ont quand même évité ils ne se sont pas rués sur les centres commerciaux dans les 2 semaines de la réouverture. Et donc, on pourrait imaginer quand même que définitivement, le commerce digital gagne des parts de marché. Donc, on était déjà sur un rythme en croissance. Donc, ça ne fera que s'accentuer. On ne va pas revenir en arrière complètement là-dessus. Qui laisse présager d'ailleurs que ceux qui ne s'y sont pas mis, toujours pas. Et voilà. Et ceux qui n'ont plus la capacité de le faire maintenant parce que justement ils n'ont pas investi suffisamment tôt, ils ne s'en sont pas servis d'accélérateur, ça va être très compliqué et on peut imaginer qu'il y ait une aggravation, une grosse aggravation
de leur situation.
Hein. Ouais. En tout cas, c'est clair maintenant, pour les entreprises traditionnelles, voilà, on ne va plus contester que le digital, la data, l'analytique, c'est central pour pouvoir aller vite et pivoter. Ça, c'est du côté, c'est du côté de la big picture. Après, du côté des NVB, évidemment, il y a eu des stratégies d'adaptation qui ont été très, très différentes, hein, suivant le stade de maturité de l'entreprise, j'ai envie de dire. Si tu es une entreprise qui est dans sa première année, que tu ne fais pas un produit de première nécessité et que la poste a fermé à côté de chez toi, etc., etc., et que tu n'as pas forcément encore un besoin de fonds de roulement incroyable parce que bah, tu n'as pas de bureau, tu fais tout de chez toi, bah, y en a qui se sont arrêtés, qui vont reprendre là maintenant. Mais il y en a certaines qui avaient de la trésorerie, qui avaient un peu d'argent en caisse, qui ont continué d'innover et qui sont restées pertinentes et qui ont bien, bien traversé le guet. On a même vu des levées de fonds. Je ne sais pas si tu as entendu parler de... Tu n'as pas pu éviter d'entendre parler de la levée de fonds de Bonne Gueule, hein, quand même. On salue Geoffrey et Benoît. 6,5 millions quand même, en pleine crise. C'est quand même formidable. Très heureux pour eux.
C'est clair.
Et puis Jo aussi, produits d'hygiène féminine. Jo, la marque Juste et Honnête. Le projet de Colline Mazera et Dorothée Barthes. Ça a pris un tout petit peu de retard, mais elles ont signé quand même en plein Covid.
Génial.
Ouais, et puis alors il y en a certaines qui ont surperformé, toutes celles qui ont pu continuer à livrer. Et je dois dire que ce qui m'a impressionné, c'est que surtout celles qui avaient des abonnements avec leurs clients, je pense à June par exemple, ou les couches, ou les petits bidons, la lessive, ou Jaffy, les croquettes pour chiens, eux, ce qu'ils voulaient vraiment, vraiment continuer à livrer leurs clients. Surtout, sans la poste, ils ont dû aller chercher d'autres moyens logistiques qui sont forcément plus chers. Tu penses bien, de négocier les contrats en pleine crise, c'est pas évident. Et aucun n'a voulu répercuter ses coûts supplémentaires sur ses clients, ce qui veut bien dire que c'est quand même des coûts marketing très importants qu'ils ont dû absorber. Malgré ça, comme ils ont fait des très très bonnes performances, on pense que ça va aller bien pour eux. Tu vois, tu as eu des performances, tu as eu des plus 600% en 2 mois, plus 1000%. Il y a vraiment des choses très. Il y a eu très belles aventures quand même, hein, tu vois. Donc, ils prouvent bien l'intérêt de ces marques. On avait parlé de Poppy, je crois, dans un épisode premier épisode. Voilà.
Papier toilette.
Ouais, exactement. On a aussi des marques, des DNVB qui vont profiter du fait que les acteurs traditionnels, qui sont donc les annonceurs en télé et en pub traditionnels, ont plutôt serré leur budget. Donc mécaniquement, on n'a jamais eu autant de monde devant la télévision au même moment. Il y avait des scores hallucinants qu'on n'avait pas vus. Enfin, moi, je n'avais pas vu depuis des dizaines d'années. Et en même temps, moins d'annonceurs. Donc, avec des plus petits budgets, on peut faire beaucoup mieux. Ouais. Et du coup, on a vu Joe, encore elle, qui ont fait une campagne de pub la semaine dernière, et bientôt aura ces typologies, donc des primo-accédants qui vont se tester en publicité télévision. Et ça, c'est très intéressant.
Génial.
Donc ça veut dire que finalement, tu vois, on essaie d'avoir un espèce de mélange des genres, en fait, où l'acteur traditionnel devient donc de plus en plus digital et propose des expériences de plus en plus intéressantes en ligne, hein, parce que j'ai pas parlé de ça, mais ils proposent aussi des expériences intéressantes et essayent de rendre service à leur communauté. Et puis de l'autre côté, on a des DNVB qui sont plus matures et puis qui essayent de tester les outils qui leur sont maintenant accessibles pour voir les outils des marques traditionnelles. Donc, alors, évidemment, je ne vais pas revenir sur tout l'engagement des DNVB à servir en gel hydroalcoolique, en masque et autres, parce qu'on en a entendu parler, et puis je n'ai pas envie de faire de classement, tu vois, de mettre des gens sur le podium. Toutes celles qui se sont mises au service de leur communauté, pareil, je pense que tout le monde a fait ce qu'il fallait, hein. Toutes les marques, que ce soit DNVB ou autres, ont fait ce qu'il fallait. Mais elles ont toutes démontré un grand principe de base que je soutiens, que je ne cesse de répéter, un principe de base: on vend mieux quand on vend rien. voilà, montre-moi ce que tu fais pour moi. Et dans cette période-là, je pense que c'était encore plus vrai que jamais. Donc, tout ça pour arriver, en fait, à cette digitalisation à allure grand V. Et du coup, moi, j'essaie de me projeter un petit peu pour l'avenir en me disant que ben, si les acteurs traditionnels commencent à piger le truc des DNVB, surtout le truc des DNVB des 10 premières années, tu sais, où on était sur le circuit court,
le beaucoup plus intermédiaire.
Tu vois, toujours le même discours un peu direct to consumer, donc on supprime les intermédiaires en amont, en aval, on est digital, donc on est plus habile sur la data et sur le marketing digital. Et puis surtout, bah, en fait, on innove sur la manière dont on va chercher, acheter et payer un produit. Tu vois, quand tu vas acheter des lunettes Warby Parker sur Internet, ça, c'était vraiment très, très nouveau. Mais et tu te les fais livrer à la maison et tout a été fait sur comment tu peux les essayer chez toi et faciliter l'achat. Pareil pour les matelas, quand tu réfléchir à l'ergonomie autour du matelas, comment tu te fais livrer quand tu habites dans une toute petite cage d'escalier à New York, etc. Et puis ça s'est diffusé dans le monde entier. Mais là, tu as surtout innové sur le modèle et tu as innové sur le modèle de livraison, mais tu n'as pas spécialement innové sur le produit. Okay. Et ce qui semblerait que, justement, les consommateurs vont vouloir acheter auprès d'entreprises qui vont vouloir résoudre et innover réellement sur les produits, pas sur le système de livraison. Donc, je pense qu'il faut vraiment se pencher là-dessus et proposer des choses qui soient vraiment innovantes. On l'a toujours dit, hein, moi je l'ai toujours dit, celles qui m'intéressent le plus dans les DNVB, c'est celles qui mettent des barrières à l'entrée dans le modèle, hein, et souvent par l'innovation et la recherche et développement. Et tu vois que parmi les DNVB hors bien de première nécessité, celles qui s'en sortent le mieux, ce sont quand même celles qui proposent des choses, des produits qui portent en eux un changement de société. Je parle d'Allbirds, bien sûr, avec, tu vois, toutes ces chaussures qui portent en soi tout un projet de sustainability, de développement durable, et que, en fait, la marque a continué pendant le coronavirus à activer, tu vois. Ça a toujours été son discours aussi, l'innovation, même pendant la crise, même si, bien sûr, elle a offert des chaussures au personnel soignant, évidemment. Par exemple, elle a lancé il y a 3 semaines, ou 15 jours, je ne me souviens plus, un système de suivi de l'empreinte carbone de chaque produit. Exactement comme tu pourrais avoir un label de suivi de food.
Trop bien.
Ouais. Donc ces marques-là, où je pense toutes les marques qui ont soit dans leur supply chain, soit dans leur produit, soit dans leur quelque part en fait dans leur modèle de l'innovation que les autres n'ont pas, processus, etc., sont capables de bâtir un avantage unique, et c'est cet avantage unique que les consommateurs vont venir chercher auprès d'eux quand ils auront trouvé tout le reste du modèle ailleurs, tu vois, quand le modèle se sera écrasé.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'est...
De toute façon, ce que tu nous dis, c'est que l'avantage concurrentiel que les DNVB avaient il y a 10 ans, à savoir on coupe les intermédiaires, on est direct au consumer, on vous connaît beaucoup mieux, on fait le produit avec vous, etc. Ça, c'est un peu le must-have pour rentrer sur le marché. Mais aujourd'hui, si tu veux vraiment performer, il faut offrir beaucoup plus et surtout beaucoup plus en recherche et développement que ce qu'on faisait jusqu'à présent.
Oui, il va falloir se différencier par autre chose que par le discours. Si tu veux, en plus ça serait dommage de ne pas le faire, parce que le marché a changé, il est en train de se recomposer, les industries sont en train de changer, elles vont se recomposer, de nouvelles envies, de nouveaux besoins sont en train de voir jour, donc c'est le moment de changer, en fait, tu vois, de renouveler le tableau et d'exploiter en fait toutes ces nouvelles brèches. Et je pense que la première chose à se demander aujourd'hui, qu'on peut faire en se posant, tu vois, c'est vraiment, surtout pour les DNVB qui ont la chance de connaître leur communauté, c'est de quoi elles ont le plus besoin en ce moment. et de réfléchir autour justement des usages des consommateurs et regarder tout ce qui a changé pendant le confinement. Il y a eu beaucoup d'études du consommateur pendant et il y en aura beaucoup après. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a pas mal de sujets comme l'écologie, par exemple, ou la transparence, qui ne sont pas du tout, comme on l'imaginait, des questions de tranche d'âge ou d'origine sociale. En fait, c'est le moment d'aller casser tous les stéréotypes qui persistent, selon lesquels la génération Z, X, millénial, je ne sais pas quoi. Tu vois, c'est le moment, en fait, puisque les DNVB connaissent leurs clients, puisqu'elles y ont accès, puisqu'elles peuvent leur téléphoner, puisqu'elles peuvent faire des zooms avec elles, c'est le moment d'aller les interroger de près et de voir qu'est-ce qui a changé dans les valeurs, dans les croyances, dans les modes de vie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et pas simplement l'attrait pour la transparence, même si elle est devenue vraiment essentielle. Par exemple, on voit que le confinement, dans les études sont très précises là-dessus, a beaucoup renforcé les liens familiaux. On voit qu'une grande majorité, parmi les plus jeunes, par exemple, non, même pas parmi les plus jeunes, je suis moi-même dans, quand j'en parle, je me remets dans des clichés, mais on a adopté une consommation plus engagée. On prit de nouvelles habitudes, tricot, couture, musique, apprentissage d'une langue, cuisine, do it yourself. Je suis sûre que nos auditeurs se reconnaissent.
Ah ouais, à mort.
Liste, etc. Bien sûr. Points. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Et ce qui m'a frappé aussi avec toutes ces études, c'est le nombre de personnes qui appellent à une résistance climatique citoyenne. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie que les choses redeviennent comme avant et que c'est le rôle des marques de les aider, en fait, d'impulser ce changement. Et si les DNVB veulent garder leur rôle d'avant-garde, d'avant-coureur, il va falloir qu'elles s'interrogent. Il va falloir qu'elles s'interrogent aussi sur cette crise économique qui est patente. Toutes les études le montrent. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui est déjà là parmi les habitants du G7. Un tiers a déjà constaté une perte de ses revenus perso. Et je pense qu'en France, on le sent peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être qu'on le sent un petit peu moins parce qu'on est protégé par le chômage partiel encore, par rapport à l'Italie ou au Canada ou aux USA, où déjà 50% des habitants disent être impactés et 7% ont perdu totalement leurs revenus. Donc, en fait, j'engage vraiment chacun à essayer de comprendre l'état d'esprit de sa communauté, ses inquiétudes par rapport au futur, à l'économie, et voir l'impact à long terme par rapport à toutes ces préoccupations. Et les études ont montré aussi que les consommateurs cherchent des marques qui vont agir comme des piliers de stabilité. Donc tu vois, le rôle des marques est vraiment renforcé par cette crise.
Les consommateurs... Mais comment tu peux, quand tu es une marque, quand tu es une DNVB, comment tu peux aller sonder tes clients sur ces sujets-là et comment, je te pose la question aussi, tu dis que les consommateurs vont chercher que les marques soient des piliers pour, de stabilité pour traverser cette période. Comment tu fais quand tu es une DNVB ou quand tu es une marque tout simplement?
Bah, je pense que quelque part, elles l'ont montré qu'elles pouvaient le faire pendant la crise, justement en donnant à la communauté, en étant des repères, si tu veux, sur comment agir pour le bien de tous, sans que ce soit forcément pour vendre des produits, mais ça peut être par des gestes très simples, hein, ça peut être par la newsletter de Seasonly, par exemple, qui était très bien construite, qui était... pas du tout anxiogène, etc. Au contraire, qui était vraiment justement optimiste et créative. Je pense que c'est ça que les consommateurs attendent. Ils n'attendent pas de toi, d'une marque, qu'elle devienne le Père Noël pour eux. Ça ne serait pas réaliste. Mais en tout cas, je pense qu'elles soient fidèles à leur discours et loyales à leur discours et que ce discours se décline en actes concrets. Tu vois, en fait, qu'elles soient exemplaires et qu'elles guident le changement. Et quand tu vois, il y a deux secondes, je te disais... Comment on va faire par rapport à l'inquiétude, comment on va faire par rapport à la résistance climatique, etc. Mais en fait, il faut être optimiste, mais penser différemment, être pragmatique et réaliste, mais aider vraiment les consommateurs et surtout les aider à réduire leur anxiété et donc comprendre les consommateurs. Et comme il n'y a pas les consommateurs, ça n'existe pas, il y a des gens, comme toi et moi, qui avons des modes de pensée et des biais cognitifs aussi, et qui se rassemblent autour des valeurs des DNVB, parce que c'est aussi l'originalité des DNVB, c'est qu'on y va pour leurs valeurs. Donc il faudra utiliser ces valeurs pour expliquer, pour informer, pour jouer un rôle encore plus important et pour vraiment, je pense vraiment de manière très pragmatique, montrer comment on peut s'impliquer dans ce monde, pour construire ce monde de demain. Je serais un peu plus précise. Dans le design thinking, on part toujours à la découverte de ce que vivent les clients. Tu sais, moi j'aime bien parler de customer journey, regarder du matin jusqu'au soir, ce que voient, sentent, ont en tête, ressentent les gens, ce qu'ils font. Et ben là, il va falloir le redécouvrir parce qu'ils ont changé, parce qu'on a tous changé. On n'est pas indemne. Et donc regarder les petits et les grands changements dans les croyances, les attitudes de vie, les projections. Et je vais le rappeler, parce que c'est du marketing, hein. Ce sont des outils marketing, d'aller découvrir ce que vivent les clients. C'est pas de l'amitié, même si on aime beaucoup nos clients. C'est du bon marketing. Et le bon marketing, c'est pas de la tech, c'est pas des outils. C'est une excellente connaissance des clients au travers des sciences comportementales et sociales, mais surtout, d'une vraie proximité. Et cette proximité, c'est des échanges individuels, une relation sincère. C'est ce que tu fais toi quand tu fais tes groupes avec presque les amis.
Les apéros réunis, ouais.
Exactement. C'est vraiment ça. Et j'insiste, hein, parce que tu sais qu'on en a parlé souvent. Moi, les surveys, les questionnaires avec des questions fermées, je peux pas. Je pense qu'on n'apprend rien du tout. D'ailleurs, j'ai écouté récemment aussi Christian David, qui est le fondateur de Cure Bazar, les vernis à ongles, sur Petit Toaster. Bonjour Chantal Soutarçon.
Salut à tous les deux d'ailleurs, hein, que je connais bien.
Ouais. Justement, ils échangeaient autour de la création du rouge à lèvres. Parce que Cure Bazar, c'est essentiellement des vernis à ongles jusqu'à présent. Et Christian expliquait qu'en fait, elle lui demandait, comment vous avez fait la R&D du rouge à lèvres, comment vous avez trouvé cette idée fantastique. Elle dit, non, mais on a juste écouté nos clientes, en fait. Elles voulaient des coordonnées. Alors, on voyait bien que quand elles venaient nous voir, elles venaient avec un rouge à lèvres d'une autre marque. Et nous, ça nous faisait mal. Et en fait, il parlait plus loin, au-delà de ça, il parlait du plaisir qu'il avait eu à échanger, là, pendant la crise, de prendre des clientes au téléphone lui-même, d'échanger avec elles, de discuter, de parler d'autres choses. Il n'y a pas de magie, en fait. Ça demande du temps. Il n'y a pas de raccourci. Il faut passer du temps avec les gens, il faut qu'ils se sentent écoutés et compris. Et en fait...
Mais là, ouais, je trouve que ce que tu dis, il n'y a pas de raccourci, c'est un truc que j'ai souvent entendu, et moi j'en suis complètement convaincu de ce truc-là. C'est qu'en fait, tes clients, il faut leur parler one by one et apprendre à les connaître, et il faut prendre le temps, et ce temps qui peut paraître un temps complètement fou, qu'on pourrait mettre à contribution autrement, mais en fait c'est le meilleur investissement de temps du monde, quoi, quand tu crées une marque.
Et oui, parce que qu'est-ce que tu fais? Déjà tu crées du lien. Alors ça, donc quand tu crées du lien, quand tu écoutes vraiment sincèrement les gens, ils sont souvent beaucoup plus fidèles, hein. Ils ont plus envie de contribuer déjà, de revenir. Et puis tu constitues vraiment une communauté. Tu fais de la R&D parce que en fait ils ont les meilleures intuitions du monde. Donc parmi le lot de choses qu'ils vont te dire, tu vas faire émerger tes nouveaux produits, tes nouvelles propositions de valeur. Et quand je parle de produits, je parle d'expérience aussi. Et en fait c'est très très riche. Et finalement, je pense que c'est pas du tout une perte de temps. Et la plupart des gens qui le font bien, qui parlent vraiment aux gens, ils se prennent au jeu et ils adorent ça. L'avant. En fait, si t'aimes pas parler à tes clients, je pense qu'il faudra peut-être penser à choisir un autre métier, en fait. Hein.
C'est ça. C'est que le métier de commerçant, c'est ça. Quand t'es une DNVB, tu restes un commerçant, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que t'es en digital que t'es pas un commerçant. Et les commerçants, à mon avis, le propre des commerçants, c'est quand même d'aimer les gens et de vouloir les mettre bien, quoi. Si t'as pas compris ça, je pense que t'as rien compris au commerce.
Alors écoute, tu sais, il y a toujours, je me souviens de l'expression de Steve Jobs, et lui il disait qu'il fallait offrir une attention extrême aux utilisateurs, et il disait qu'il faut les aimer follement jusqu'à l'obsession. Voilà, donc je pense on peut le créditer de ça au moins. Et donc j'ai parlé de recherche et développement, j'ai parlé d'innovation, donc pour cette après-crise, j'ai parlé de renouer autrement avec ses clients, de continuer en tout cas d'approfondir la relation client On a parlé un tout petit peu de l'expérience aussi. Je pense que si on veut continuer, si les DNVB ou en tout cas si les marques qui émergent veulent continuer à gagner de l'avance, il faut absolument qu'elles explorent tous les sujets de l'expérience client, donc en chouchoutant le client bien sûr. Mais là aussi, pendant cette crise, on a vu toutes les marques traditionnelles qui ont d'ailleurs souvent beaucoup plus de moyens aller chercher pour créer une expérience en ligne quelque chose de des outils digitaux très très intéressants pour rendre le processus d'achat très très réaliste. Hein, donc on connaissait déjà tous les outils de L'Oréal, etc. Donc là, Tommy Hilfiger aussi avec toutes les technologies 3D, etc. Donc là, maintenant, il va falloir aller plus loin. Il va falloir vraiment se dire que on peut vendre en ligne et avoir et dupliquer l'expérience physique en ligne. C'est-à-dire que j'ai envie de toucher, j'ai envie de sentir, j'ai envie de le voir sur moi. Il va falloir le dématérialiser.
Comment tu fais ça alors ?
Et aller très vite là-dessus, parce qu'on le voit bien, parce qu'aujourd'hui, les boutiques réouvrent. Mais pour autant, on ne va pas pouvoir non plus toucher, ni forcément pouvoir... en tout cas, ce n'est pas la meilleure configuration de vouloir essayer et toucher. Donc là-dessus, on a plein de startups en France. On a, je pense, sur la technologie 3D, par exemple, on a Naker.io. Et je discutais avec Manuel Malène, Maison Courbet. Tu sais, le joaillier en ligne de la place Vendôme, samedi. Je lui demandais où il en était sur ces sujets, justement, parce que lui, il a toujours été dans beaucoup de recherches sur, comme ils vont qu'en ligne de la joaillerie, ben, il faut quand même qu'il s'intéresse à ces sujets de très près. Et justement, dans 15 jours, je crois que, non, dans un mois, il m'a dit, en fait, il va avoir un configurateur qui a été fait par Aptic Media, qui est une start-up de Strasbourg. C'est eux qui ont fait le configurateur de Baum, qui est la DNVB de Baum et Mercier pour les montres. Et en fait, qui va pouvoir te montrer comment tu vas pouvoir choisir ta pierre et faire le changement sur ta main, mais à distance en fait, via la 3D. Eux, ils ont fait de la vidéoconférence pendant tout le Covid. Ils se sont super entraînés puisque c'est aussi un de leurs modèles de vente, hein, à distance. Donc ils avaient leur designeuse online qui était très, qui ont continué à faire le job, mais il va plus loin, ils ont fait ça en FaceTime, etc. Mais je lui demandais comment tu fais en fait pour avoir une bonne expérience à distance, surtout quand tu penses que c'est des gens qui viennent acheter une bague de fiançailles et que souvent du coup ils viennent à deux. Si tu vas dans son showroom, c'est hyper convivial en fait, t'as l'impression d'être à la maison, il y a des canapés, ils t'offrent le thé, des petits gâteaux, etc. Et t'as vraiment pas l'impression d'être chez un joaillier de la place Vendôme en tout cas. Et en fait, ce qu'il me dit, c'est que c'est dans le ton et la manière d'être, la convivialité, en fait. Tu vois, un discours hyper simple, hyper convivial. Et ça, tu peux le faire, il faut essayer de le dupliquer, en fait, sur des outils qui sont aujourd'hui la 3D, une app de réalité augmentée, par exemple. Lui, il va bientôt avoir une app de réalité augmentée qui s'appelle Try On. Tu vois, il y a des apps. Justement, ce que Warby Parker, avec ses lunettes, a essayé de faire tout seul à la maison pendant des années, aujourd'hui, tu as cette start-up qui te propose la brique technologique et tu as juste à la plugger sur ton site.
Shopify.
En fait. Tu vois, donc ça, c'est...
Try-on, c'est ça.
Et là, avec cette app, tu peux ajuster la bague à ton doigt, tu peux changer la couleur, etc.
Et sur le vêtement, c'est quoi? C'est quoi les applications pour le vêtement? Parce que Try-on, j'ai l'impression que c'est plutôt l'objet, la joaillerie, ou c'est aussi le vêtement?
Oui, c'est le bijou. Il y en a des tonnes, en fait. C'était.
Tu recommanderais lesquelles, toi, pour le vêtement?
C'est difficile à trouver. Tu sais, il y a toutes les applications de miroir virtuel, justement. Tu as Mirror Screen, qui est une start-up israélienne qui s'appelle Memory. Le site, c'est memorymirror.com et qui te fait une expérience de réalité augmentée, réaliste et personnalisée, etc. etc. Bon, alors évidemment, tous ces outils, on peut s'imaginer que bientôt, ça sera la norme. Donc, il faut aller plus loin. Mais si déjà, tu te laisses dépasser par ce qui va être rapidement la norme, ou si tu ne réfléchis pas à ce que tu peux faire, là, on va au-devant de soucis.
Mais ça, ça tu soulignes un truc, mais là, ces applications, parce que c'est quand même un enjeu qui est énorme sur essayer les vêtements, etc. C'est un enjeu qui est à la fois environnemental pour éviter 36 000 allers-retours, échanges, etc. Mais c'est un enjeu économique énorme, quoi. Quand t'entends aujourd'hui que. Moi, c'est régulièrement que j'entends quand j'interview les gens qu'ils ont 20% d'échanges et retours. Tu te dis, c'est quand même un sacré budget en logistique, quoi, et en
oui, et 20%, c'est quand le sizing est bien fait, quand d'une collection sur l'autre, tu retrouves ta bonne taille. Ça peut être pire que ça, ça peut être autour de 30%. Mmh. Et puis, tu parles pas des trucs sur place, tu parles pas des invendus, des stocks d'invendus, des stocks d'exposition, etc., etc. Il y a quand même, on le sait tous, beaucoup, beaucoup de déchets dans toutes les industries, hein, c'est pas que la mode, la cosmétique aussi. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Donc ça améliorera pas forcément les coûts d'exploitation parce qu'il faut les payer ces appâts, mais en tout cas ça permet de placer l'argent là où il est utile. De toute façon on n'y coupera pas, hein. l'expérience en ligne on en était qu'au début et elle ne va faire que s'améliorer. On va avoir de plus en plus d'outils, mais ce que je veux simplement dire, c'est que tout le monde doit s'y intéresser aujourd'hui et pas en faire le discours autour du modèle ne suffira pas.
C'est clair.
Et puis, le dernier point que je voulais souligner, c'est le sujet du branding. En fait, justement, je pense que beaucoup de marques aujourd'hui, c'est pas propre aux DNVB, mais on le voit beaucoup chez les DNVB quand même, confondent leur mission et leur storytelling. Et du coup qui ont un message qui n'est pas forcément super efficace, en particulier toutes celles qui reprennent le message d'Everlane, donc tel qu'Everlane l'avait énoncé d'ailleurs il y a 10 ans, puisqu'ils ont beaucoup évolué depuis, donc transparence, circuit court, prix juste, qualité, durabilité. On en voit tous les jours, hein. ça peut être une marque de dentifrice, une marque de sneakers, vraiment c'est un discours qui s'est relativement aplati. C'est un discours qui avait une grande puissance, hein, il y a 10 ans, parce que c'était le moment du Rana Plaza, il faut quand même pas l'oublier, et qu'à cette époque-là, Everlane dévoilait les coulisses de la mode, auxquelles on ne connaissait strictement rien. Bon, si c'est pour au final avoir tous le même discours, c'est pas forcément... ça va pas forcément retenir l'attention de qui que ce soit. Finalement, on arrive à utiliser... ce genre d'argument, enfin, moi, ce que je vois, c'est beaucoup dans la mode de marques qui disent, oui, alors, on a sourcé un super tissu dans une usine, chez le meilleur fournisseur en Italie, on l'a fait faire au Portugal dans la meilleure usine. Oui, mais vous y allez tous, en fait. En fait, on les connaît. En plus, en général, ce sont les fournisseurs du luxe. Donc, la seule innovation, c'est quoi? C'est de vendre le même produit à un prix inférieur, un produit du luxe à un prix inférieur. Et c'est même pas toujours le cas, tu vois. Donc, bon, franchement, personne ne fait un métier facile, c'est déjà pas évident de s'y mettre, mais quand même, on peut améliorer les choses. Moi, je pense que quand tu te lances sur une marque et que tu lances une marque et t'expliques aux gens, par exemple, le sport, à quel point les utilisateurs, les runners polluent la planète en laissant tout leur merdier derrière leur marathon et en choisissant des vêtements qui... Oui, c'est vrai, ça peut être un vrai déclic, un why, mais c'est pour le fondateur, tu vois. C'est le fondateur qui va se dire, ouais, il n'y a pas d'alternative, il y a pour les clients, il n'y a pas de transparence. Mais ça, c'est pas du branding. Ça, c'est super compliqué en plus pour le cerveau des moyens, tu vois. Le cerveau humain, il ne sait pas traiter, c'est trop d'informations. Plus le message est clair et prévisible, et plus le cerveau va l'assimiler facilement. Et c'est justement à ça que sert le storytelling. C'est-à-dire une narration de marque qui permet de dégager une logique. Tu vois ? Et ça, on a un gros déficit de storytelling dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques. En fait, c'est des techniques de scénario. Si je te dis, ta marque, en fait, c'est comme une série ou un film, et en fait, il faut qu'il y ait une logique dans le récit, bah, du coup, tout est en ordre et ton cerveau n'a rien à faire pour comprendre de quoi il en retourne. Mais en fait, la plupart des marques, elles font cette erreur et elles obligent les gens à dépenser beaucoup d'énergie. Mais si je prends l'exemple d'Apple, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, Steve Jobs, à partir du moment, en fait, je peux dire, au début, ses premières pubs, c'était illisible. En 83, il a fait une pub de 9 pages dans le New York Times pour présenter les spécificités techniques d'un ordi qui s'appelait le Lisa, dans un jargon geek à mourir. Okay, mmh. Je ne sais pas si les gens peuvent s'imaginer ça, qu'une marque comme Apple soit capable de prendre 9 pages dans le New York Times pour...
Ouais, c'est fou.
Notre ordi ci et notre ordi ça. Et après de passer chez Pixar, en fait, c'est là qu'il a compris qu'il fallait avoir un message qui soit passé au tamis de la narration. Et c'est là qu'il est revenu avec son Think Different. Mmh. Et là, il a mis ses deux mots sur des affiches et il a couvert l'Amérique de ça. Il a fait une communication super claire. Et tu vas me dire, ouais, mais Think Different, c'est pas une narration. Bah si. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il écrit Think Different, quand il pense Think Different, il a compris ce que ses clients vivaient et il a compris que les clients étaient les héros au quotidien et que c'était sur ce sur quoi ça devait s'appuyer l'histoire. D'abord, il identifie les souhaits des clients. Être vu et entendu. Être vu, think different et entendu. Mmh. Ensuite, il détermine le défi à relever. Réveiller le génie qui sommeille en chacun. Penser différemment. Leur fournir un outil, en dernier, qui leur permette de s'exprimer, l'ordinateur ou le smartphone. Et à chaque fois, si tu regardes bien, c'est un concentré, mais chacun de ces trois points, c'est un des piliers de la tradition orale des conteurs et des scénaristes. C'est des éléments cruciaux pour créer le lien avec les clients. Mmh. Attention, l'histoire, c'est pas l'histoire d'Apple. C'est nous qui sommes les héros de ce scénario. C'est comme si tu disais... C'est pas Apple, ça serait Q dans un film de James Bond. Tu vois, c'est l'ingénieur qui nous donne le bon outil pour remporter la victoire. Mmh. En plus, les outils et la techno d'Apple, c'est pas forcément les meilleurs sur le marché, mais peu importe. Ce qu'on achète, c'est l'histoire la plus simple possible. Et donc, pour en revenir à ce que Michael Pressman a fait avec Everlane, quand il annonce Radical Transparency, ça, c'est aussi un programme en soi, un programme super simple, mais ce que personne n'a lu, en fait. C'est, en soi, le héros, le client, qui va découvrir ce qu'il y a derrière le rideau et qu'on lui cachait et qu'il n'avait jamais vu. C'est lui qui va pouvoir mener sa propre enquête. Et du coup, il en sera plus malin, non seulement pour lui, mais en même temps, on va lui donner l'opportunité d'évoluer selon un modèle aspirationnel et de participer au sauvetage de la planète. Donc, ce que fait Michael Pressman, c'est qu'il nous donne à tous l'opportunité d'avoir un plan pour changer, se transformer et choisir notre évolution identitaire. C'est ça que ça veut dire, radical transparency. Ça ne veut pas dire on va tout raconter ce qu'il y a derrière. Et quand je parle de sa propre enquête, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est toujours le cas d'ailleurs, il a deux personnes depuis le début dans sa marque qui propose une fois par semaine sur WhatsApp d'aller voir l'arrière du décor, de poser des questions à tout le monde. Et qui pose la question ? C'est pas les deux de la boîte, c'est les clients. Ok ? Et je sais pas si tu te souviens aussi de la pyramide de Maslow que j'aime tellement citer. Qu'est-ce qui va déclencher l'envie chez un client ? Chez nous tous d'ailleurs. Qu'est-ce qui déclenche l'envie en fait de se tourner vers une offre quelle qu'elle soit ? C'est le désir, et c'est universel, de survivre et de s'épanouir. Tout en bas de la pyramide, tu sais, la première marche, tu vois ? Et cette survie, elle est physique, elle est émotionnelle, elle est relationnelle ou elle est spirituelle. Et spirituelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à moins de démontrer que tes produits ou tes services n'aident les gens à survivre, à prospérer, à être acceptés, à trouver l'amour, à accéder à un modèle identitaire ou à intégrer une tribu qui va les protéger physiquement et socialement, tu ne vendras rien.
D'accord. Okay.
Donc je rappelle que le héros de l'histoire, c'est le client, c'est pas la marque. C'est vraiment super important. Vous pouvez regarder un TEDx de Nancy Duarte, on vous mettra le lien. C'est une spécialiste de l'efficacité en communication. Et moi, elle m'avait frappée parce que dans un de ses TED, elle dit elle parle des marques, elle dit « Vous êtes Maître Yoda, le client, c'est Luke Skywalker. » Dans un récit, le héros n'est jamais le personnage le plus fort, tu sais. Il a souvent même pas les qualités requises. Parfois même, il manque de confiance en lui. Il pense souvent qu'il n'est pas à la hauteur. Parfois même, tu sais, il est réticent. Il n'a pas envie d'y aller. En revanche, le guide, lui, il s'y connaît. Et c'est lui qui a l'autorité. Mais c'est pourtant, l'histoire, elle est rarement centrée sur le guide. En général, c'est le rôle secondaire. Elle se focalise sur le héros. Et si, de mon point de vue, le scénariste ou le chef d'entreprise, puisqu'ici on parle d'entreprise, oublie ce principe, le public ne sait plus du tout à qui se rattache vraiment l'intrigue, à quoi se rattache Lama, qu'est-ce qu'on lui propose, et va s'en désintéresser. Et ça, ça se vérifie en business, en politique et même en famille. Chacun d'entre nous, on cherche un guide qui nous vienne en aide, on ne cherche pas un autre héros.
C'est puissant ce que tu nous dis là. Une fois qu'on a compris ça, peut-être pour donner des exemples, est-ce que tu peux nous donner des exemples de marques autres que Apple et Everlane qui le font très bien, ça, et qui l'ont bien compris. Ouais. J'ai même envie de te demander des jeunes marques, des marques peut-être plus récentes et moins puissantes.
Ok, défi relevé. Alors, deux exemples. Bonne Gueule, tiens, on en parlait. Voyons Bonne Gueule ce que ça donne. Bonne Gueule, c'est quoi l'histoire? Bonne Gueule, c'est beau gosse en toutes circonstances. Le guide de l'homme parfait. Tu sais qu'ils ont commencé comme ça. Ils n'ont pas commencé avec une marque, ils ont commencé avec ce guide de l'homme parfait. Donc c'est ça la promesse. Beau gosse en toutes circonstances. C'est clair, on va à l'essentiel, on est pris par la main. Tu vois, c'est. En fait, la marque te donne des. Après, elle va te donner des explications pédagogiques, mais comme elle te présente comme un guide et qu'elle te promet d'être beau gosse en toutes circonstances, et Dieu sait si on a besoin, en tant que héros, qui doit traverser cette vie où il te propose de te prendre à la main depuis la fin de tes études pour tes premiers rendez-vous de premiers rendez-vous professionnels. Pour ta première date avec qui que ce soit, ton premier rendez-vous amoureux, etc., etc., dans des moments importants de ta vie, dans les moments primordiaux, en fait, ils vont te proposer d'être beau gosse. D'accord? Et ils vont te guider là-dedans, en te donnant d'ailleurs un guide, tu vois, c'est simple. Hein du coup, on sait qu'on peut leur faire confiance, et comme ils te donnent toutes ces explications pédagogiques aussi, du coup, tu sais qu'ils s'adressent à un homme intelligent, auquel on peut se dire que la plupart des gens auront envie de s'identifier. Mais il te montre pas un héros, pas un super-héros. Il te montre le héros, c'est un homme moderne, avec des faiblesses et des doutes. Parce que si t'as pas de faiblesses et de doutes, tu vois, t'as l'arrogance de penser que tu peux être beau gosse sans eux. Et puis, il y a non seulement ça dans la marque, cette dimension d'homme moderne avec ses faiblesses et ses doutes, mais moi, je trouve qu'ils ont rajouté aussi cette dimension de l'appui du groupe et du collectif. Parce qu'en fait, quoi qu'ils fassent, il y a toujours, même dans leur, justement quand ils racontent leur galère, c'est toujours on a fait ensemble, les uns les autres, le collectif, vous, nous, tous ensemble. Tu vois ? Donc, quand on parlait des besoins essentiels, d'intégrer une tribu qui va te protéger physiquement et socialement, qui va te permettre de trouver l'amour, pourquoi pas, de prospérer et d'être accepté, en fait, ils cochent tout. Ok ? C'est, tu peux survivre dans la jungle urbaine si tu es comme eux, tu venais de province et que tu connais pas les codes parisiens. Un guide. C'est clair ?
C'est clair.
Prenons Asphalt.
Asphalt.
Est-ce que c'est la même chose de ton point de vue ?
Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit la même histoire et je crois que ça vient pas du même de la même envie au départ tu prends Benoît et Geoffrey et tu prends William au démarrage, ils ont pas du tout le point de départ n'est pas du tout le même, donc forcément les marques sont différentes.
Alors les marques sont différentes, mais le récit est très très différent aussi parce que nos auditeurs essayez de regarder leur compte Instagram pendant qu'on parle ou de vous rappeler ce que vous connaissez de cette marque. Asphalt met en scène un héros qui est assez stéréotypé en fait, qui est tiré très fortement de l'imagerie du cinéma hollywoodien. Avec une mise en scène et des cadrages qui nous rappellent ces grands moments du cinéma. C'est un homme qui est, là où on disait que c'était le collectif, l'homme au moderne avec ses faiblesses chez Bonne Gueule, là, on a un hédoniste, on a un individualiste qui cherche la maîtrise de la séduction par le look et les références classiques. Donc lui, de mon point de vue, ça va peut-être faire hurler les amis d'Asphalt, cet homme-là, pour moi, il se pose la question de sa virilité et comment réussir à séduire et à épater la galerie. C'est pas du tout le même homme, tu vois. Mais cette marque lui donne les moyens, encore une fois, de réussir, d'être guidé et de réussir sa vie sociale, sa vie sentimentale, d'une autre manière. Parce que ce n'est pas le même héros auquel on va s'identifier. Et dans les deux récits, c'est vraiment une question de survie. Comment on vit en bonne santé, heureux et fort. Dans le premier cas, de celui de Bonne Gueule, le désir survie, ça correspond à celui de créer des liens sociaux. Et dans le deuxième cas, de mon point de vue, beaucoup plus de gagner en prestige. Est-ce que j'ai répondu à ta question ?
Ouais, carrément, complètement. Mais ça ne veut pas dire que les deux marques, que les deux stratégies ne peuvent pas avoir le même succès à la fin. Tu t'adresses à des hommes différents, en tout cas à une population différente, mais à mon avis, il y a de la place pour les deux, non ?
Ben c'est pour ça qu'il y a de la place pour les deux, parce qu'en fait, ce que permet ce récit, c'est que, en fait, d'avoir des identifications différentes et donc des clients différents qui vont s'identifier de manière différente. Après, tu peux aimer Cary Grant et tu peux aimer Star Wars. Tu peux aussi aller te servir dans les deux parce que tu vas aimer un peu de ça et un peu de ça. Elles ne s'annulent pas non plus. Mais là, on parle du récit de marque et de l'importance d'en avoir. Les deux marques réussissent, et si elles réussissent, c'est de mon point de vue parce qu'elles ont un storytelling qui est bien travaillé, versus d'autres marques qui n'en auraient pas, dont la mission remplacerait le storytelling. On va vous permettre, la marque est une marque vertueuse, propre, qui ne pollue pas, qui ne cela. Bon, ben ok, mais en fait, pour le client final, pour l'utilisateur, le consommateur, c'est faible. Et c'est dommage, parce que tu peux avoir le meilleur produit du monde. Hein. En fait, c'est pas celui qui va l'emporter au final, c'est pas le meilleur produit qui va l'emporter. C'est celui qui a le récit le plus simple et le plus épique. Donc ça...
T'as des contre-exemples, non ? Des exemples où...
Exemple, tu vois, ça serait pas très cool. Je pense que je pense que tu vois, si certains réagissent, si ça fait mal au ventre, ce que je suis en train de raconter fait un peu mal au bide. Pense que quand on a mal au bide, c'est qu'on sent qu'il y a un petit truc qu'on peut améliorer, et c'est le moment. Et c'est pas, on peut pas. Les marques que j'accompagne, on fait ça à longueur de journée, tu vois. C'est-à-dire qu'en plus, le récit se travaille. C'est quelque chose qu'on construit. Ça n'arrive pas, faut pas se prendre la tête, se cogner la tête contre les murs en sortant du podcast en disant ah, je vais pas le faire, j'y arrive pas. Et tu sais, je pense que si tu sais qui est ton client et si tu te demandes sérieusement ce qu'il cherche dans ta marque, ce que tu résous pour lui, si tu dois être son guide, en fait, si tu dois être son guide et qu'il doit t'accorder sa confiance, il faut que tu lui proposes un plan, en fait. Tu peux pas partir du principe que les gens savent en quoi tu vas changer leur vie. Il faut leur expliquer. Mais si tu changes pas leur vie, change de métier. Et quand je dis change leur vie, je t'ai donné deux exemples, celui de Bonne Gueule, celui d'Asphalt, ou même celui d'Apple. Alors, on est d'accord sur le changer la vie, le niveau de changer la vie.
Bien sûr.
Donc voilà.
Très bien.
Quelles questions vos clients se posent-ils en ce moment ? Ça, c'est là. Voilà, je pense que je peux finir là-dessus. Et sur une belle citation de Donald Miller, qui est un scénariste américain, qui disait « Quiconque prend conscience que le récit épique de sa vie ne parle pas de lui-même, mais de son entourage, finira par l'emporter. Cela va à l'encontre de l'intuition, mais c'est la vérité. Un leader pensant être au centre du récit connaîtra temporairement le succès, mais il restera généralement dans les mémoires en tant que méchant. »
Très bien. Eh bien, écoute, ça nous laisse...
Voilà, de quoi
on méditer. Est dimanche soir, là, et ouais, je vais méditer toute la soirée, et c'est parfait pour attaquer une bonne semaine de déconfinement. Merci infiniment, Viviane. À très très vite en chair et en os, j'espère.
Adrien. À très vite.
Salut, ciao ciao.
Bonne reprise, ciao.
Toi aussi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com.
Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.